l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h45 sur Europe 1 et nous accueillons au 39 maintenant Lisa. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Lisa?
Merci, ça va, merci de m'accueillir. Je suis très très heureuse de vous entendre. Je vous écoute souvent et là je me suis décidée, je me suis dit il faut que je parle à Olivier de ce qui me travaille un petit peu. Et j'ai tenté le coup, voilà. Comme je disais à Natacha, quand on vous écoute, on a l'impression d'être avec un vieux pote. Ouais. Et je me suis dit, peut-être que ça va peut-être m'aider aussi à expliquer un peu ce qui est compliqué, quoi.
Mais
voilà.
Oui, vous avez bien fait. Je le dis souvent, en fait, qu'il faut prendre son temps, mais qu'à un moment, quand on ressent, qu'on peut le tenter,
voilà.
On le tente, et puis voilà. Et puis une fois qu'on
Absolument.
Se retrouve ensemble, c'est comme si on se connaissait depuis pas mal de temps.
Et donc, je vais essayer d'être claire. J'ai une maman qui a 100 ans et avec laquelle je me suis un petit peu fâchée il y a quelque temps, il y a 3-4 mois. Bon, elle a toute sa tête, elle est très intelligente, elle a son caractère, bon, même si elle est un petit peu fatiguée. Mais on s'est un petit peu disputé sur des choses un peu récurrentes. C'est une maman que j'ai toujours appréciée, que j'ai toujours adorée. Bon, elle a vécu des moments difficiles avec mon père, puisque c'était un petit peu violent entre eux. Et nous, évidemment, on en subissait aussi les conséquences. Donc, elle n'a pas toujours eu la vie facile. Et donc, elle n'avait que ses enfants, finalement, pour se faire sa propre famille, puisqu'elle-même n'avait pas eu de famille. Donc, moi, j'ai analysé ça. Je me suis dit, elle avait besoin, à un moment donné, de sentir qu'elle avait une famille et ses 4 enfants, puisqu'on était sur les 4, à moins d'une personne, puisque j'ai perdu une sœur, ça fait un an aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai découvert au décès de mon père, en 2007, qu'elle avait un autre visage et je suis tombée de l'armoire, quoi. Ça a été vraiment très très compliqué pour moi qui étais vraiment en adoration pour maman. Un peu trop, mais bon, c'est comme ça, les enfants, vous savez, quand ils sont tout petits, vous avez une maman qui raconte toute sa vie, en plus, elle nous racontait souvent ce qu'elle avait souffert, etc. Et
oui.
Donc, on était là, tous les quatre, autour de la table, en train de la regarder, et en amour, et en même temps, un petit peu en souffrance, parce qu'on sentait bien qu'elle nous transmettait pas mal d'angoisses en même temps, toutes ces angoisses, et donc, on a grandi comme ça, au fur et à mesure des années ont passé, et toujours un peu en racontant toujours les mêmes histoires. Et puis, à un moment donné, on lui a dit, écoute, maman, arrête de nous parler de ça maintenant. On a envie un petit peu de s'en libérer, quoi, puisque ça nous a aussi posé des difficultés dans la vie, puisqu'on a eu nous-mêmes, en tant qu'adultes, des problèmes d'angoisse, enfin, des manques de confiance en nous, enfin, des choses comme ça. Et donc, arrivé à un moment donné, on a repris un petit peu la barre et on a essayé de remettre tout ça à niveau. Et elle s'est pas trop mal passée, mais j'ai découvert une maman quand même très, très dure.
Oui.
Et ma petite sœur, qui avait plus de 50 ans, mais qui était partie il y a un an, a eu des problèmes dans son parcours, puisqu'elle a commencé à fréquenter un peu des gens un peu fréquentables. Enfin, elle a touché un petit peu à tout, si vous voulez, l'alcool, la drogue, etc.
Oui.
Et en fin de compte, à partir de 17 ans, ça a commencé, même un petit peu avant, mais ça s'est vraiment précisé vers 17 ans. Et ça, elle a eu des problèmes, elle a passé pratiquement partie de sa vie en HP, en hôpital de psy, donc. Et,
elle prenait des drogues dures ou...
Mais elle avait pris des acides à une époque, et puis après, c'était surtout de l'herbe. Enfin, elle prenait de l'herbe.
Ouais.
On appelle ça de l'herbe. Et...
ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça.
C'est exactement ça, en fait.
Ouais.
Et donc, moi-même, j'en ai pris à une époque, mais j'ai arrêté tout de suite parce que je n'ai pas compris pourquoi je m'étais retrouvée sous la table de la cuisine un beau matin d'été. Mais bon, bref. Et donc, ça, c'est une anecdote. Et donc, elle avait donc un peu utilisé ce genre de choses, et avec des médicaments, des antidépresseurs, des choses comme ça, ce qui fait qu'elle n'a pas arrangé les choses. Et en plus, bon, elle s'est mise à boire de l'alcool de plus en plus. Et moi, je la récupérais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et surtout de la nuit d'ailleurs. Quand elle était à bout de force, elle venait frapper à ma porte. Voilà. Et donc, elle a vécu des trucs durs et moi, j'ai essayé à mon niveau de toujours essayer de lui laisser la porte ouverte parce qu'elle était quand même pas mal rejetée. Et moi-même, je suis pas un ange. Des fois, j'étais un petit peu dure avec elle aussi. Parce que des fois c'était insupportable, mais j'ai toujours dit ma porte elle reste ouverte même si on ne vit plus, la porte est ouverte. Et donc mais par contre du côté de mon autre sœur et de ma mère, on a été beaucoup plus dur là les dernières années, là les 15 dernières années, parce qu'elles étaient sûrement elles étaient à saturation, je pense. Voilà, puisque ma mère vieillissant, bon, elle avait de plus en plus je pense, envie d'avoir la paix, comme elle l'a souvent dit, je veux avoir la paix. Et, mais en voulant avoir la paix, elle se bouchait les oreilles et, pardon, et ça la rendait presque aveugle sur ce qui se passait à côté d'elle. Et j'ai trouvé très, très dur parce qu'elle a un petit peu, ma sœur. Et elles ont été très dures avec elle. Donc moi, j'ai commencé à mettre le poing sur la table et vraiment dire les choses, comme d'habitude, bien souvent. Et ce qui m'a valu pas mal de difficultés avec ma famille. Et tout ça pour dire que bon, là, j'ai un petit peu craqué ces derniers temps. Enfin, craqué, je me suis mis un petit peu en colère parce que j'ai ma soeur qui était très, très malade, que j'ai vu mourir, donc, à l'hôpital. Ces derniers mois, elle avait de plus en plus de mal à respirer puisqu'elle a eu un problème de poumon parce qu'elle fumait trop. Et donc là, je me suis retrouvée seule à faire 40 bornes pour aller voir ma sœur. Et sans que ma mère ni ma sœur, bon, mon frère vit aux États-Unis depuis presque 50 ans, donc je l'avais au téléphone, mais bon, malheureusement, il n'était pas toujours là. Et donc, je me suis retrouvée toute seule. Heureusement que j'avais des amis qui m'ont soutenue, mais elles ne sont jamais venues l'avoir à l'hôpital. Et moi, j'ai vécu tout ça très, très, d'une manière très, très dure et je leur en veux énormément. Et ma mère, déjà, j'avais déjà des choses qui n'allaient pas très bien avec elle. Il y a eu des moments où j'ai cassé, puis je suis revenue. Parce que finalement, on ne peut pas bouler parce qu'on se dit, bon, c'est notre mère, donc il faut y aller, tu peux pas ne pas lui parler, c'est à toi de faire des efforts et tout. Et en fait, quand j'y allais, après, quand je revenais, j'étais plus mal que quand j'étais partie. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, je vais pas continuer à y aller. Ça se passe comme ça, parce que d'autant plus qu'elle n'est pas du tout, même si on ne se voit pas pendant 6 mois, elle est capable de vous redire exactement la phrase qui a fait qu'on ne s'est pas vu pendant 6 mois, elle est capable de vous la ressortir.
Oui, ouais, je vois.
Vous voyez, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas d'analyse. Bon, analyse, c'est un bien grand mot, mais ne serait-ce que de reconnaître, de dire, bon, là, c'est vrai, j'étais un petit peu trop dur avec elle, un peu trop dur avec toi, ou. Ne serait-ce que d'avoir cette phrase-là, ça aurait pu déjà. Non, elle peut pas faire, elle peut pas le dire. C'est même là, à 100 ans, de toute façon, on me dit, moi, de toute façon, maintenant, je ne suis pas longtemps. De toute manière, ben, j'ai justement,
c'est,
on a fait pour longtemps.
C'est insupportable. C'est insupportable.
Vous voyez ?
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, merci de me dire ça parce que.
Non, mais je vais vous dire, je suis certain en plus que, à ma place, vous auriez eu. Plein de personnes qui vous auraient dit non mais enfin Lisa, tu vois, ta maman a 100 ans quand même,
voilà.
C'est pas bien une mère, tu sais, on en a qu'une et patati et patata, mais non, mais oui, on n'a qu'une mère, oui c'est la réalité,
c'est,
mais est-ce que on doit, au nom de au nom de, je ne sais pas comment appeler ça, les codes de la société, le poids des traditions vous savez, cette éducation catholique qu'on a eue faut pas manquer de respect aux parents. Ce n'est pas une histoire de respect, c'est elle qui vous manque de respect. Vous comprenez ? C'est elle qui, ne veut absolument pas changer. Peut-être qu'elle n'a même pas conscience qu'elle est comme ça.
Je pense qu'elle n'a pas conscience.
Bon. Mais. Ça n'oblige pas, ça ne vous oblige
pas
à être victime de ça.
Oui.
C'est
alors, je me dis qu'elle n'a pas confiance, mais bon, en même temps, je me dis peut-être pas non plus, parce
oui,
que des fois, elle a des fonds.
Mais alors, Lisa, elle n'a pas. Mettons qu'elle n'ait pas conscience de ça. Ce que j'ai du mal à penser. Mais bon.
Oui.
Voilà. Mettons qu'elle n'ait pas conscience de ça et qu'elle soit assez obtue. Est-ce que vous lui avez déjà parlé? Est-ce qu'il y a eu certaines frictions?
Oui, j'ai tenté, mais elle est complètement fermée.
Fermée, voilà.
Elle est complètement fermée.
Voilà, c'est tout.
Et en fin de compte, non. Je pense qu'elle n'est pas capable de la remise en cause, risquerait peut-être de la faire trop souffrir, je pense. Et puis moi, c'est pas mon but de la faire souffrir, mais même sans une remise en cause, j'ai l'impression qu'elle a envie qu'on lui foute la paix et elle a envie que... Et ben, vous pouvez souffrir, mais taisez-vous, quoi. Enfin, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai déjà vu comme ça, réagir comme ça sur une chose, bon, je ne vais pas trop détailler, mais dans laquelle j'ai assisté et j'étais révoltée. J'ai mis le poing sur la table en disant, tu ne peux pas dire ça parce que tu n'es pas à sa place. Tu ne veux pas savoir s'il a souffert ou pas parce qu'elle disait, mais non, mais il n'a pas souffert. Mais pas du tout. C'est comme quand on caresse un enfant, on lui caresse les cheveux. Alors qu'il vient de se mettre le doigt dans la porte et qu'il pleure et qu'il a qu'une seule envie, c'est qu'on le prenne dans les bras, on lui met un petit coup sur les cheveux en lui disant « Allez, c'est rien. Allez, tu n'as pas mal, tout va bien, avance. »
Oui, exactement, voilà. C'est ça. Et...
Vous voyez,
ouais.
Donc c'est complètement... Mais non, c'est ça. On ne peut pas dire, pas parler pour les autres. Je pense que cette personne-là, en l'occurrence, avait beaucoup souffert, et je l'ai ressenti, et je n'ai pas supporté qu'on puisse parler à sa place. Et j'ai trouvé ça ignoble, en plus, il s'agissait de son fils. Donc, j'ai dit, il ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est une maman qui nous a montré beaucoup d'affection, mais en même temps, je me demande s'il n'y avait pas une espèce de perversité, je ne sais pas, quelque chose qu'elle ramène un peu à elle, pour se mettre au centre, parce qu'en fait, on n'a jamais été vraiment liés. Comme je lui ai dit, tu n'as pas fait la liaison entre nous. Et en fin de compte, j'ai l'impression que du fait de ces manques, elle s'est mise au centre de façon à mieux régner parmi nous.
Mmh. Et diviser pour mieux régner.
Ouais, c'est ça. Et à réagir en fonction de l'un des enfants qu'elle avait en face d'elle, puisqu'elle avait des réactions différentes suivant l'enfant qu'elle a en face d'elle.
Et vous voyez ce type de comportement, ce type de schéma dont vous parlez ce soir, c'est quelque chose que j'ai énormément croisé, moi, que j'ai énormément... identifié chez pas mal de relations, de personnes comme ça, connues ou moins connues, mais qui arrivaient à se livrer à un moment sur ces relations pas toxiques, mais qui le deviennent au fur et à mesure que finalement il y a ce côté obtus et cette non-volonté d'avancer, de réfléchir et de se remettre en question. Et parce qu'on a affaire à un père ou une mère, on lui doit le respect et on n'a pas à lui dire ça. On va continuer à évoquer tout cela,
si vous
le voulez bien. On écoute le journal de minuit, puis on se reparle tout de suite après, d'accord ?
D'accord,
Olivier. À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur votre radio, votre libre antenne est en direct jusqu'à 1h du matin. Donc si vous nous rejoignez à peine, que vous êtes en voiture ou que vous venez juste de rentrer chez vous, soyez les bienvenus car cette libre antenne, c'est chez vous, chers amis. Nous sommes avec Lisa, nous échangeons ce soir avec Lisa sur les rapports qu'elle a avec sa maman de 100 ans. Des rapports compliqués avec une mère qui ne se remet pas du tout en question et qui, à plusieurs moments de leur existence, a heurté tout de même pas mal ses enfants. Vous évoquiez, Lisa, cette sœur dont pas grand monde ne s'est occupé, mais que votre mère a presque laissé tomber, en fait.
Voilà, vers la fin complètement, oui. Et puis déjà, c'était un sujet un peu tabou. En fait, c'était moi qui la faisais vivre parce qu'on n'en parlait jamais. Et moi, à chaque fois que j'avais la possibilité de communiquer, à chaque fois, je leur rappelais quand même qu'elle était là, qu'elle était vivante et qu'elle existait.
Mais
et
oui,
donc,
ouais.
Évidemment, c'était un petit peu... Pardon, c'était un petit peu... On sentait le trouble, si vous voulez.
Quel âge avait-elle, cette sœur?
Elle avait 60 ans. 60 ans.
D'accord.
Voilà.
Et donc, pour en revenir à votre maman, qui... on évoquait justement certaines
oui.
situations où vous lui aviez parlé, vous avez
plusieurs
évoqué,
fois, oui.
Vous avez donc évoqué votre désaccord avec sa manière de se comporter ou de parler,
oui.
Et l'attitude qu'elle avait, c'était quoi exactement?
C'est-à-dire qu'elle était, j'ai l'impression qu'elle est dans le déni, parce que quand la vérité gêne, elle n'entend pas, elle ne voit pas tout ce qu'elle veut. Elle prend sa tête dans ses mains et laissez-moi tranquille, je ne veux pas savoir, je ne veux rien. En fait, quand la réalité est trop forte, elle ne peut pas l'accepter. En fait, voilà. Elle
oui.
est dans le déni.
Mm-hmm.
Vous voyez?
Oui,
elle est dans
je
le
vois
déni.
Parfaitement.
Voilà, et donc je lui dis, mais j'ai des questions, parce que moi j'étais en analyse pendant un petit moment, et je cherchais à comprendre certaines choses, et je lui ai dit, j'aimerais que tu me parles des débuts de ma vie, comment ça s'est passé quand j'étais toute petite, etc., parce que d'où vient un petit peu ce vide en moi par moment. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui parle du vide en soi, je ne me rappelle plus très bien de l'auteur, mais c'est un truc formidable, il y a quelques bouquins là, et s'appelle le vide en soi. Et on parle justement de ces enfants qui, finalement, ont un sentiment d'abandon. Voilà.
Oui, oui.
Et parce qu'en fait, à chaque fois que ma mère accouchait, celui qui restait était à l'hôpital. À cette époque-là, c'était comme ça, à l'hôpital. Bon, moi, je suis née en 53, hein, vous voyez, donc j'ai 66 ans.
Oui.
Voilà. Et à cette époque-là, dans les années 50, c'était comme ça, les femmes accouchaient et les enfants allaient à l'hôpital, restaient à l'hôpital. Ceux qui étaient les petits, si vous voulez, mon frère qui est né avant moi, quand je suis née, eh bien, ils l'ont gardé à l'hôpital pour que ma mère puisse accoucher tranquillement, etc. Et on avait tous été, ça a tous été le cas de tout le monde. Donc,
ah oui, je ne savais pas ça, moi.
Oui, absolument. Et donc, il y avait des couveuses, il y avait des salles où on avait les enfants qui étaient là, où on gardait les enfants à l'hôpital. Et comme ça, j'ai su qu'on pouvait rester 8 jours, 15 jours, comme ça, sans voir notre maman. Alors donc, comme on était très rapprochés, mon frère, il est né en 52, moi en 53, ma sœur en 55 et la dernière en 57. La petite dernière, malheureusement, qui s'est partie. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, ceux qui restaient étaient envoyés en garde à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, en fait. Voilà. Donc... Et on était tout seul, et je me souviens que je pleurais beaucoup, c'est marrant, parce que j'étais
petite. Bah oui, vous m'étonnez.
Mais oui, voilà.
Ça devait être très perturbant, ça.
Absolument. Et donc, j'ai appris tout ça, mais en posant des questions. Et après, j'ai dit, mais essaye de me répondre un petit peu comment. Et elle a très mal pris au début, puis elle a fini par, comme, il a fallu que je me batte pour lui dire que, parce qu'elle prenait ça contre elle, et elle disait, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu, tu comprends, j'ai dit, maman, je ne te juge pas, j'essaye de comprendre ma vie, de comprendre d'où je viens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi certaines choses arrivent, etc. C'est tout, voilà. Donc, j'ai dû vraiment la préparer pendant un bon moment, de façon à ce qu'elle arrive enfin à me répondre. Et avec beaucoup de difficultés, parce que on peut pas savoir, en fait. Alors je dis, donc j'ai des questions et je peux pas savoir, tu ne veux pas me répondre. Eh ben non, elle a pas envie. Il faut se battre pour avoir la vérité. Il faut se battre, en fait, pour avoir la vérité. Voilà, c'est ça. Et moi, je passe ma vie à vouloir la vérité. Voilà.
Ouais, d'accord.
Donc je suis les cailloux dans la chaussure.
Mmh. Ouais,
voilà. Donc c'est ça, en fait, le problème. Donc j'ai toujours l'impression d'arriver vraiment de déranger, alors que je trouve que c'est naturel de poser des questions comme ça et de savoir pourquoi c'est comme ça. Eh bien non, chez nous, non, c'est pas comme ça. On ne dit rien, on ne parle pas. D'abord, on nous a toujours dit qu'il fallait qu'on taise, déjà et d'une. Sauf que moi, je n'ai pas mon caractère.
Mais on ne parle pas, en fait. Vous savez pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on n'a pas de problème, parce qu'on sait tout sur tout, et que seul ce qu'on dit voilà, est la parole de l'Évangile, et que voilà, et qu'on ne se remet jamais en question, que c'est à la génération, à notre génération, là, des 50 ans, 60 ans, des 40 ans aujourd'hui, à aller voir des psys pour faire des thérapies.
Pour faire le nettoyage.
Oui, oui.
Pour faire le grand nettoyage.
Alors que lorsqu'on a la chance de connaître cette science, qui est la psychologie, et de savoir qu'en allant voir un thérapeute, bien évidemment un thérapeute avec qui ça peut coller, combien on peut justement nettoyer, comme vous le soulignez, non seulement nettoyer notre âme, nettoyer notre esprit, mais comprendre certaines choses de nous, de nos fonctionnements, de nos peurs, de nos peines, de nos problématiques d'engagement. Vous parliez tout à l'heure de la peur de l'abandon. Combien de ces personnes qui ont l'âge de votre mère aujourd'hui n'ont jamais abordé cela, et la peur de l'abandon. Et j'évoquais dans mon éditorial d'avant-hier l'amour justement, cet amour qui nous tient tous, l'amour des autres, l'amour des enfants, l'amour de l'autre. C'est à chaque fois un engagement d'aimer. C'est un engagement. C'est l'amour d'un ami pour un ami n'est pas le même que l'on a pour un enfant. N'est pas le même que l'on a pour sa femme ou son mari, mais c'est toujours une question d'engagement. Et cet engagement, il est souvent complexe quand on y remet la notion de temps, c'est-à-dire de ce temps qui s'écoule et qui fait que cette relation, elle aussi, mûrit, s'enrichit, devrait s'enrichir si tout le monde faisait ce chemin-là.
Mais tout le monde n'est pas prêt à ça.
Non, non. On avait tout à l'heure Magali... Je ne sais pas si vous nous écoutiez déjà à ce moment-là,
Magali,
mais c'était vraiment très, très juste ce qu'elle disait.
C'est
faire attention à son couple, nourrir sa famille, toujours faire attention à l'autre et lui l'écouter. Or,
je suis complètement d'accord avec vous.
Ouais, et or, là, ce que vous évoquez, Lisa, mais ce qui vous arrive à de nombreuses personnes, c'est que vous évoquez une parole qui va à sens unique. Il faut.
Oui, c'est ça.
Il faut.
C'est-à-dire qu'elle est, disons que c'est, elle a pas envie de. Bon, après on dit bon, elle a pas connu sa mère, elle a vécu très peu de temps avec son père puisqu'il est mort, elle avait 10 ans. Ensuite, elle a vécu avec les bonnes sœurs parce qu'à cette époque-là, les enfants allaient chez les sœurs. Donc, elle est très catholique, elle est très.
Elle est très catholique. Elle va à la messe tous les dimanches.
Non.
Non, mais je connais tout un tas de personnes comme ça qui vont,
elle va pas
qui
à, la
vont
messe,
à la messe tous les dimanches et qui peuvent être la semaine pas de très bonne manière.
Oh ben oui, hélas, c'est malheureusement le cas souvent.
Je veux pas généraliser, mais en tout cas, beaucoup croient qu'à la messe le dimanche, on se rattrape. Allez, on nettoie tout ce qu'on a fait de la semaine et puis on recommence pour une nouvelle semaine. Mais non. C'est pas comme ça que ça se passe.
Oui, bien sûr. Moi, comme je dis souvent, je suis athée, mais mon athéisme vaut bien leur catéchisme. Hein. Donc, peut-être même mieux, parce que je me sens souvent plus humaine que certaines personnes qui ont des religions, peu importe laquelle. Ils ont des comportements qui ne sont pas vraiment... Bon, après, je respecte toutes les personnes avec leurs croyances. Je n'ai absolument pas de difficulté avec ça. Mais c'est vrai que le comportement, il y a des fois... voilà, moi je me réfère à aucune religion, j'essaie juste d'être une terrienne à peu près humaniste, humaine envers mon prochain, c'est déjà beaucoup de travail.
Et justement, et vous voyez, dans tout ce que vous évoquez là, ces religions, le poids des traditions dans ces religions, avec lesquelles... Ouais. Parce qu'on pointe du doigt aujourd'hui volontiers les musulmans. Vous voyez, aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, là, on pointe les coutumes des musulmans, la religion musulmane. Mais on a oublié, nous, en fait, en bon français, d'où on vient. En fait, on vient d'une éducation, d'une culture qui a baigné dans le judéo-chrétien. Et en fait,
ben oui, c'est pour ça qu'on a voulu s'en débarrasser.
Et qui, elle aussi, hein, cette religion a produit tous ses travers, comme oui, ce dont on parle ce soir.
Absolument.
Ce dont on parle ce soir, c'est le respect qu'on devrait avoir. Et ça n'est pas une question de respect que de dire à sa mère, à son père, à son grand-père ou sa grand-mère, bon, écoute, là, tu commences à me courir, là. je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus accepter ça. Oui. Je ne peux plus endurer ça. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Voilà. Mais vous savez, on dit souvent aussi que bon, les gens qui n'ont pas été aimés ont des difficultés à aimer les autres. Et comme elle n'a pas eu d'amour, ni avec mon père, ni avec personne, elle l'a trouvé, en fait, avec nous, avec les enfants, parce que c'est vrai que nous, moi, j'adorais ma mère. Hein, j'étais vraiment complètement... je me suis mariée une fois, elle a voulu que je me marie à l'église, je l'ai fait pour elle, alors que moi, je suis absolument d'aucune église, donc dans ma tête, en plus, j'étais très militante sur plein tas de trucs, et pour moi, tous ces trucs-là, c'était vraiment du chinois. Mais bon, je l'ai fait pour lui faire plaisir, vous voyez, à quel point. Bon, je suis restée un an mariée, hein, mais bon, bref. Mais bon, ça pour dire, c'est que pour lui faire plaisir, eh bien, je suis allée à l'église, voilà, parce que je l'aimais et je voulais qu'elle soit heureuse. J'ai dit, ben moi, je vais te rendre heureuse, je vais faire ça pour toi, parce que tu es ma maman, etc. Et en fin de compte, bon, j'ai vu que son affection, finalement, mais je la juge pas parce que, et je lui en veux même pas, vous voyez, je lui en veux pas. C'est simplement dur de voir sa mère qui ne comprend pas, qui n'entend pas, qui ne comprend pas, qu'on essaye de lui faire, de lui montrer. Et je pense, comme dit ma psy, de toute façon, enfin, moi, je la vois plus maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je me dis à moi-même, j'ai dit, bah, écoute, va falloir que tu fasses avec, et toujours plutôt sans, et puis continuer ton chemin, et puis c'est tout. Mais là, le fait de, en ce moment, je me dis, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler, parce que, en fait, là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais aller la voir, ça fait 4 mois que je l'ai pas vue, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Et en plus, je risque de rentrer chez moi peut-être un peu mal. Donc voilà. Donc je suis là en train de me poser tout un tas de questions. Est-ce que j'y vais et j'y vais pas?
Ça a dû arriver beaucoup, hein, ces moments-là où vous alliez la voir de bonne humeur, heureuse, et puis en rentrant, elle vous avait bien.
Absolument. Bien cassé mais c'est un petit peu de ma faute aussi parce que j'en attends peut-être de trop aussi. Mais là, j'attends plus rien maintenant.
Mais ça, c'est mieux.
J'attends. Oui, absolument. J'ai beaucoup évolué et donc j'attends plus rien. Donc du coup, ça ne me manque pas de pas la voir. Hein. C'était dur à dire, mais elle ne me manque pas.
Non,
mais je pense à elle et je me dis bon, quand même, c'est ma mère.
Mais oui.
Pas de temps en temps. Il faudrait que j'aille la voir. Mais si je veux la voir, de toute façon. Ça va changer quoi?
Vous dites que c'est dommage, en fait.
Ben oui, voilà. Puis elle, pour elle, ça change rien. Il n'y a pas d'évolution de son côté. Donc je vais y aller pour quoi? En plus, j'ai pas grand chose à, on va pas avoir grand chose à se dire. Donc si c'est juste pour lui faire coucou avant que tu t'en ailles vers d'autres cieux, bon, un petit peu. Et voilà. Donc c'est je suis dans un.
Il faut que. Vous savez quoi? Vous savez, Lisa. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut que vous écoutiez votre intuition.
Que je pense,
parce que moi, je l'entends, votre intuition, hein, ce soir. Elle résonne fortement. Et bien évidemment que il y a encore de la culpabilité qui se dégage de ce type de conflit,
c'est
en fait.
Pas de la culpabilité, c'est un petit peu de peine, en fait.
Oui, de peine, mais il y a quand même un peu de culpabilité dans ce que vous me racontez, parce que vous dites, elle a 100 ans, demain, elle va partir. Et si elle partait là, et qu'on, en fait, on est...
Qu'on ne se soit pas vu.
Voilà, qu'on ne se soit pas vu et qu'on en soit resté là.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'elle, ça ne la gêne pas qu'on ne soit pas vu, parce qu'elle ne m'appelle pas du tout, vous voyez.
Ah mais non, mais elle attend que vous l'appeliez.
Donc, elle est... voilà, c'est ça. Donc,
ça
elle attend
pas,
que j'aille la voir.
C'est pas elle de vous appeler.
Voilà, c'est
ben
ça.
Oui.
Non, mais c'est ça.
Ben oui, je sais, c'est ça.
Oui, c'est ça, absolument. Mais
ça n'est pas elle
d'accord.
De vous appeler, c'est vous qui dysfonctionnez. Elle est droite,
voilà.
Elle est droite dans ses bottes.
Ah oui, c'est ça, vous êtes comme d'habitude.
Elle n'a rien fait, c'est vous qui encore faites tout un fromage de je ne sais
quoi.
Ah
non, elle est responsable de rien. Non, c'était la plus malheureuse du monde. Et on ne peut pas être plus malheureuse qu'elle, c'est pas possible. Mm-hmm. Non, non.
Oui, oui. Je...
Voilà.
Oui.
Voilà.
Et voilà, si la question est dois-je retourner la voir bon, j'ai envie de vous dire, vous savez,
ouais,
en retournant la voir, mm-hmm. vous savez ce que vous allez prendre, en tout cas, comment vous allez être impacté.
Mm-hmm. Ouais.
Peut-être, par contre, peut-être, mm-hmm. Moi, je vous conseillerais une chose, mais qui ne servira sans doute à rien, hein, mais,
oui, dites toujours.
Mais qui aura au moins qui aura au moins le... Ah, vous voyez, je suis fatigué, je ne trouve pas vertu. La vertu, voilà.
Je crois comprendre.
Ça aura la vertu, ouais. de au moins de lui avoir dit ce que vous pensiez, ce que vous aviez sur le cœur.
Je voulais lui écrire, moi.
Bah, voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'en l'incitant, en lui racontant, mm-hmm. tu sais, voilà, je regrette vraiment, c'est un regret, mais un regret qu'aujourd'hui je vis bien, parce que j'ai essayé par tous les moyens de te faire comprendre certaines choses et tu as toujours été fermé. Tu n'as jamais entendu même, tu n'as jamais compris. Et mm-hmm. peut-être, je dis toujours aussi, on fait comme on peut, vous savez, Lisa. Et,
ouais,
et sûrement que votre mère, en agissant comme elle agit là, elle agit comme elle peut, avec les armes qu'elle a. Et si elle s'est construite dans l'abandon, vous voyez, dans mm-hmm. une sorte de violence psychologique, hein, le fait d'être abandonné, d'être confié à des sœurs.
Elle a souffert, hein, c'est clair.
Et
quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein,
oui,
c'est sûr.
Mais
hein.
ça, bien évidemment, on ne lui enlève pas. Il y a tout un tas de personnes qui ont souffert mm-hmm. et qui se sont construits là-dessus, mais qui ont vraiment pensé que c'était comme mm-hmm. ça, c'était pas autrement. Vous voyez ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et, mm-hmm. et que pourtant... moi, ça m'enrage, en fait, quand je vois des enfants comme ça, avec des parents qui sont éloignés, parce que, justement, il y a ce côté « je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne te comprends pas ».
Alors ça, Olivier, vous voyez, j'en parlais, je ne vais pas faire trop long, mais genre, ce que vous dites ça me touche beaucoup, parce que ça me touche beaucoup, parce que j'en parlais à un ami encore hier, et je disais, dans la rue, avant, vous voyez les parents qui prenaient les enfants dans les bras, qui les embrassaient, qui prenaient soin... des fois, je vois des parents avec des enfants, le foyer est froid. Moi, j'étais bien habillée, tout chaudement. Le père était bien habillé, et puis le gamin, il était dans la poussette, il n'avait pas les gants, il n'avait pas l'écharpe, il n'avait pas les bonnets. Il était là comme si on... Je trouve qu'on trimballe les enfants comme des colis. On ne sent pas l'amour, on ne sent pas...
Alors, moi, j'ai de la peine quand
je vois des enfants comme ça, j'ai envie de leur dire, mais prenez votre enfant dans les bras, vous voyez, quand il pleure.
C'est difficile.
Mais ce n'est pas toujours facile,
non,
hein.
Mais moi,
ça fait de la peine parce que...
Il y a quand même beaucoup de parents qui se comportent bien. Hein. Moi, j'en vois plein de parents qui se comportent bien.
Oui, bien sûr. Il y a des fois, c'est... Justement, on parlait de cet amour-là, de ce lien. Je trouve que parfois, on ne le voit pas... On voit pas beaucoup, quoi.
Voilà. Bah, il est certain que... Voilà, il y a des gens qui sont durs. Vous voyez, ils sont durs. Et ils ne se remettent pas en question. Ils sont remplis de certitudes. Et ça, c'est...
Mais ils oublient qu'ils ont été des enfants.
Mais ça ne fait même pas partie de leur réflexion, hein, de même penser qu'ils ont été des enfants. Ils n'ont même pas oublié. C'est que ça n'existe plus dans leur tête.
Ils l'ont zappé, ouais.
Mmh. Oui, et donc, je vous dis, quand je vous dis on fait comme on peut, c'est-à-dire votre mère, elle est comme elle est, mais elle est persuadée d'avoir raison. Et donc, elle ne changera, mais pas d'un iota. Vous voyez ?
Non, je ne changerai pas.
Alors, la chose, par contre, qui vous sera un acte d'amour, en même temps qu'un acte de femme mûre, intelligente, et qui se doit de lui dire, voilà, je pense que même si tu as 100 ans aujourd'hui, rien ne t'empêche de te pencher sur ta vie, sur ce dont je te parle là, et d'y réfléchir. Mm-hmm.
Et j'ai commencé à lui faire une lettre.
Je te souhaite d'y réfléchir pour toi.
Oui, voilà. Absolument.
Parce que c'est à souhaiter à n'importe qui de pouvoir évoluer, de pouvoir se dire Mais vous savez quoi, ça fait du bien. Moi, aujourd'hui, ça me fait du bien quand je me dis bah, « T'as eu tort, là. Quand tu t'es comporté comme ça, t'as eu tort. » Et je suis hyper ouais. fier de pouvoir me dire ça aujourd'hui.
Bien sûr,
autant fier de me dire mm-hmm. que j'ai eu tort et que je l'ai reconnu que
oui,
fier pour des choses que j'ai réussies. Voilà,
souvent, c'est ce que je dis, d'ailleurs. Non, là, j'ai pas bien fait. Là, j'ai eu tort de faire ça. Voilà. Le reconnaître, déjà, c'est bien. Et puis même, ça fait du bien. Je trouve que ça allège un peu le...
Et puis parce que nous ne sommes pas parfaits.
Ça nous fait du bien.
Parce que nous ne sommes pas parfaits.
Absolument.
Tout à l'heure, on évoquait avec Magali le fait d'avoir 50 ans. Et que c'est vrai que cet mm-hmm. âge de 50 ans, je trouve qu'il y a... En tout cas... pour pas mal d'entre nous.
Mais on est jeune à 50 ans.
On est jeune,
moi, j'en ai
66.
J'en ai 66, je suis super jeune. Hein,
vous avez une voix
dans ma tête.
Vous avez
à tous les niveaux, je suis jeune, moi.
Hein. Oui, j'entends. Mais vous avez une voix, je vous dis pas. Mais 66 ans, ça reste jeune aussi aujourd'hui.
Bien sûr.
Hein, on évoquait,
vous savez, c'est un état d'esprit, hein, la jeunesse.
Exactement. Hein. Vous parlez de votre mère de 100 ans. Donc si vous suivez le chemin, ouais. vous vous rendez compte, vous en avez encore pour un bon paquet de temps.
Dans ce monde-là, j'espère pas quand même, non.
Bah pourquoi
franchement
pas.
Franchement
pas.
Pourquoi hein. pas. Oh, quand on voit tout ce qui se passe,
franchement... Moi, je veux dire, en forme, je signe pour 100 ans. Hein. Ah ouais, non, mais moi, j'aime trop la vie, je trouve ça passionnant,
oui, vous êtes un bon vivant. Non, mais vous avez raison.
Oui, c'est passionnant, la vie. Mm-hmm. Les gens sont passionnants.
Aussi, hein.
On éprouve...
Les gens sont super, moi, je trouve. Bah, voilà, oui. Moi, j'adore les gens. J'aime être avec les gens, je me sens bien, je vais dans des cafés solidaires, je rencontre des pseudo-artistes, mais bon, c'est pas grave, on est tous ensemble, on rigole bien, on se
et
marre bien.
Et vous êtes dans quelle région, en fait, vous?
Moi, je suis du côté de... Je suis pas loin du 14e arrondissement, voilà.
Pour vous d'accord, vous êtes à Paris, d'accord. Okay.
Voilà, je suis au Port d'Orléans, par là, j'habite par là, je vais pas trop dire où j'habite, mais voilà,
non, mais
très loin de là.
D'accord.
Et donc, je rencontre des tas de gens, j'adore, je fais du vélo, j'aime être avec les autres autant que j'aime ma solitude. Voilà, et c'est un vrai plaisir, je me ressource, je rentre chez moi, je suis bien parce que je suis pleine de tout ce que j'ai pu écouter, entendre à droite à gauche. Et je suis enfin chez moi, détendue, bien. Et là, je suis bien parce que je suis seule et je suis bien. Voilà.
Ouais,
et c'est ça qui est bien.
Et,
voilà.
Et votre mère est aussi parisienne, en fait?
Ah oui, on est tous de Paris. On est tous nés dans le 14e arrondissement.
D'accord.
Voilà. Ma
donc,
mère a des origines bretonnes. Mais...
Ouais, et elle n'est pas loin de vous, donc finalement, en fait.
Ah non, elle est en face de chez moi. Je vois sa fenêtre de mon balcon.
Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est un
sacré
histoire.
Ah non, mais c'est ma zone. Ah mais vous voyez ça, Olivier, ça c'est vraiment c'est un truc qui est dingue. C'est que je me suis aperçue que j'avais pris un appartement qui était en fait en face de chez ma mère.
Mm-hmm.
Voilà.
Et ça c'est vous savez quoi, c'est un autre
c'est dingue.
Symptôme. Vous parliez de l'engagement et de la peur de l'abandon tout à l'heure surtout.
Ouais.
Mais quand on prend comme ça une maison ou un appartement tout près de chez maman. C'est que à un moment, il y a eu un lien très fort, un truc, une grande attente.
Absolument, ça a été tellement fort que on voulait pas la laisser toute seule. Et mon autre sœur, elle habite de l'autre côté. C'est une histoire de dingue.
Ouais.
Après que je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fin de compte, on est tous les uns à côté des autres.
Enfin,
les trois. Parce que...
Et donc, elle a remarqué que vous veniez pas la voir là pour le coup.
Ah bah oui, bien sûr. Bon, moi, je vois la lumière. Quand je vois la lumière, je dis, bon, bah, ça va, elle est bien, elle est encore
d'accord.
là, c'est bon.
Et ça fait combien de temps, en fait, là, que vous ne l'avez pas vue?
Bah, ça va faire 3-4 mois. Voilà, 4 mois, on va dire.
D'accord.
Voilà.
Et vous sentez bien, non?
Ah bah très bien, hein
oui.
Très très bien.
Mm-hmm.
Seulement, je me dis, bon, je me dis, quand un petit coup de fil, ça serait sympa, quoi. Mais même, c'est vrai que je l'ai un peu bousculé au téléphone. Quand on s'est quitté la dernière fois, c'est vrai que j'étais pas très très sympa avec elle non plus. Donc, j'étais un petit peu rude dans mes paroles, parce que j'ai un franc-parler, donc ça frappe bien là où il faut. Mais... Donc là, c'est vrai que j'étais un petit peu dure, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut se faire respecter aussi, quoi.
Alors,
ça va, quoi.
J'ai un SMS qui n'est pas signé, mais c'est une...
Oui.
Je vais vous le lire à l'antenne, parce que voilà, ça fait partie de voilà, des idées reçues ouais. que l'on peut avoir.
Bon, bah,
alors que on ne parle pas du tout de ça ce soir. Un auditeur ou une auditrice m'écrit, ça peut être très dérangeant pour les personnes âgées de faire appel à des vieux souvenirs. Avec le temps, ils érigent des barrières de sécurité et refusent les explications. Je pense que c'est à respecter et à apprendre bien à sûr, vivre hein. avec nos zones. Oui. Mais bien évidemment, je suis...
complètement d'accord.
Il n'est pas question de ne pas respecter cela. Hein.
Non, pas du tout.
Ça n'est pas du tout ce que l'on dit ce soir, en tout cas.
Non, absolument pas. Ça, c'est pas ce que j'ai dit, en tout cas. Non. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire passer.
Ça n'est pas du tout ce que vous avez dit, et ni ce que j'ai dit. Nous évoquons ce soir l'incapacité de certaines personnes âgées ou... moins âgés, hein, vous savez, parce que je pense qu'il y a des personnes de 40 ans, des pères, des mères, ou des grands-parents de 60 ans, on peut être grand-grand-père,
et
qui sont archi-fermés, ça n'est pas une question qui concerne simplement ce soir. Alors là, je parle, vous savez, je ne vous parle pas à vous, hein, Lisa, je parle à l'auditeur ou l'auditrice qui nous a envoyé ça. Ça n'est pas du tout des personnes âgées dont on parle ce soir. On parle de personnes qui en fait, se sont construits d'une certaine manière et qui, alors avec le peu de choses, d'outils qu'ils ont, se refusent à voir autre chose et à évoluer, en fait.
Et, c'est ça.
Et c'est de ça dont on parle ce soir. Parce c'est que je connais des centenaires, je connais des gens qui ont 90 ans, qui appellent sur cette libre antenne, et vous entendez combien ils sont ouverts d'esprit, épanouis,
Et
combien on a à apprendre de ces personnes. Donc,
Bien sûr.
C'est le rêve d'ailleurs, hein, ça, d'avoir... D'avoir
absolument. Voilà, d'autant plus qu'elle elle a du caractère, ma mère, elle est quand même assez bon, même si elle est... Bon, c'est une femme, elle a toujours été soumise, mais vers le tard, là, on a récupéré une mère très, très... Elle a pris sa revanche, là, depuis quelques temps, là. Oui. Oh oui, ces dernières années, on a vu qu'elle avait repris le dessus. Là. C'est vraiment...
Comment ça? Dites-moi.
Bah, depuis que mon père est parti en 2007, elle était un petit peu malade au début, puis après... Moi, j'ai découvert ma mère, en fait. Je la voyais pas du tout comme ça. Elle a son caractère, elle est devenue, j'ai trouvé, très dure. Bon, elle se laisse influencer par mon autre sœur qui est très autoritaire et très... j'ai une sœur qui est très autoritaire. Je l'appelle Madame la Directrice. Hein, parce que quand elle vient avec les papiers sous bras et qu'elle me regarde avec un air noir, je me dis, bon, bah tiens, voilà Madame la Directrice. Donc, voilà. Mais moi, j'ai un caractère fort aussi. Donc, des fois, ça fait boum.
Oui.
Mais... et donc, voilà. C'est donc ma mère, si vous voulez... Elle a repris dessus, puis en même temps, elle subit bien ma sœur aussi, parce qu'elle se plaint. Elle se plaint à moi, parce que ma sœur, soi-disant, lui parle pas bien. Donc, elle m'appelait souvent pour que j'aille la voir. J'étais toujours là, dès qu'elle me sonnait, j'arrivais en courant, parce que c'était ma mère, il y a encore même pas un an. Et puis finalement, bon, ben, je m'aperçois qu'elle aime bien ma sœur, elle préfère ma sœur, parce que ma sœur, elle est beaucoup plus dure. Donc, elle ressemble beaucoup à mon père, elle est très autoritaire, très comme ça. Et je lui ai dit, bah, finalement, tu préfères quelqu'un qui est beaucoup plus dur, très autoritaire, et qui te maltraite parce que c'est ce que tu connais le mieux.
Oui, qui te ressemble.
Quelqu'un comme moi.
Qui te ressemble,
voilà, c'est
en fait.
Ça. Alors que moi, qui suis douce, qui te parle, qui essaye de comprendre, qui essaye de savoir, de chercher, parce que je suis curieuse des autres, et j'ai envie de comprendre, des choses comme ça, eh bien, moi, tu me fuis, tu m'appelles juste quand tu as besoin de mettre une étagère, parce que je suis très bricoleuse, donc je monte des meubles, je fais pas mal de trucs et tout. Donc, quand tu as besoin d'un petit bricole, ben là, par contre, j'arrive, je cours avec ma trousse, je viens t'aider. Et là, par contre, c'est moi qui viens, je t'appelle. Mmh. Et après, tu te plains de mon autre sœur quand je suis là. Et mais voilà. Vous voyez, c'est tout le paradoxe de cette mère. Voilà. Oui,
je comprends complètement. Mais vous savez, le grand regret dans tout ça, en fait, c'est de se dire aussi que ces personnes... qui sont comme ça, un peu butées, un peu... Voilà, qui sont étroites d'esprit, sont parfois très intelligentes.
Vous voyez ce que je veux dire ? Oui.
Et que c'est un gâchis énorme de voir cette intelligence qui n'est pas mise au service de leur propre développement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tout ce qu'il faut pour que là-haut, ça fonctionne et que ça se pose des questions et que ça développe et que... Et que spirituellement, elle pourrait avancer, mais c'est comme si en fait elles avaient mis un cadenas. Non, là c'est fermé, là on rentre pas par là. C'est voilà. Et c'est comme
ça.
Et
voilà.
C'est, vous voyez, Et
absolument. Parce que elle n'a pas toujours été comme ça, mais elle est devenue comme ça de plus en plus.
Et voilà. je suppose que votre mère est une femme intelligente, en tout cas que vous percevez comme étant intelligente.
Que je percevais, parce que maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, bon, elle a toujours son intelligence, mais disons qu'elle est... Bon, c'est moins percutant qu'avant, mais bon, c'est normal, elle a 100 ans, la pauvre, pas non plus... Mais non, elle a toujours été... elle est très psychologue, elle est très... quelqu'un qui... J'aimais beaucoup, on échangeait énormément ensemble quand on s'entendait bien. Et puis, il y a eu des blocages, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu la mort de mon père, il y a eu tout un tas de choses... Et elle a repris, si vous voulez, sa liberté. C'est à partir de ce moment-là, moi, je pense, que les choses, elle a pris la place qu'elle n'avait pas pu prendre, en fait.
C'est-à-dire, voilà. Pourquoi? Parce que votre père était plutôt...
Parce que c'est une femme soumise et que mon père était violent.
D'accord. Que faisait-il votre père dans la vie?
Il a commencé, il était comme un simple employé dans une entreprise. Et puis, et ensuite, c'est lui qui a repris. Enfin, c'est lui qui... Il est venu, disons que c'était un peu dirigeant, quoi, on va le dire, en gros. Voilà.
D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même réussi sa vie et qui...
Oui, lui, il n'a pas fait d'études, mais on avait un père qui nous aidait dans les devoirs de maths, c'est pour vous dire, donc il était très intelligent. Donc, voilà, il a fait tout de ses mains, par contre. Voilà, oui. On est tous un peu comme lui, on est tous un peu des gens qui avant, bon, nous on a fait des études, mais on est autodidacte dans l'âme, quoi. On aime bien aller chercher les choses sans les apprendre forcément.
D'accord, donc elle devrait s'inspirer de ça, votre maman. Elle devrait.
Oui, mais voyez, maintenant, je pense que bien sûr.
Non, mais attendez, vous me dites maintenant, mais on ne parle pas de maintenant là. En fait, c'est ça qui est dramatique. On parle de toute une vie là. On parle d'un moment où on est resté bloqué à un
absolument. À un niveau. Mais vous voyez, j'en arrive à parler comme ça parce que tout à fait d'accord. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais là, je m'aperçois que j'ai tellement pris de recul que finalement, j'en arrive à là quand je m'entends parler, je me dis voilà, le recul, il est là quoi. Ça ne m'atteint plus du tout de la même manière que c'était encore il y a quelques mois.
Et vous savez pourquoi ça vous atteignait, en fait, Lisa? C'est que, en fait, longtemps, je vous dis, je connais pas mal de personnes qui affrontent cette situation. Et longtemps, en fait, ce sont des personnes qui ont essayé, qui étaient remplies d'espoir par rapport à ça, tout en mêlant, bien évidemment, beaucoup d'amour qu'ils pouvaient avoir pour et qu'ils ont toujours d'ailleurs, parce que on peut continuer à avoir de l'amour pour sa mère, son père, mais ne pas s'imposer une relation toxique.
Voilà,
parce
absolument.
Que pour le coup, c'est vrai qu'on n'a qu'une mère, qu'on n'a qu'un père et que c'est un amour particulier et que pourquoi s'en séparer, pourquoi mettre une croix sur cet amour, ça serait radical et plutôt pas très productif. Non, c'est juste à un moment, tant qu'on est enfant, adolescent, et puis jeune adulte, et puis adulte, on se dit, on s'inspire de nos parents et tout. Et puis à un moment, on dépasse nos parents parce qu'on a réalisé tel truc, et on s'aperçoit qu'en termes de responsabilité, comme ça fait un moment qu'ils se sont arrêtés, qu'ils ont, vous savez, qu'ils ont fait carrière, ils se sont arrêtés. Et nous, bien évidemment, c'est le sens naturel des choses. On avance.
Absolument, bien sûr.
On avance.
On avance, voilà. On évolue.
On évolue et avec une société qui nous demande de plus en plus d'être alerte. Et puis avec une société qui communique beaucoup plus aujourd'hui. Si vous voulez être alerte, vous avez vraiment de quoi faire. Quoi. Et donc, voilà, c'est là où d'un seul coup, on dépasse nos parents en termes de conscience, en termes de connaissance. En tout cas, je vous parle de spiritualité, je ne vous parle pas de connaissance, de conscience. Alors,
je comprends,
on parle
tout à fait.
De conscience.
C'est important, la conscience.
Et là, en fait, c'est là que, là, d'un seul coup, il y a comme un choc des cultures. Voilà.
Absolument.
Oui, c'est regrettable. Mais bon, en même temps, vous savez où vous voulez, comme vous dites, il y a de la lumière à la fenêtre.
Oui.
Bon, c'est déjà ça. Hein.
Je vais aller jeter un coup d'œil après, là, je vais regarder. S'il y a de la lumière.
Parce qu'elle se couche tard, votre mère?
Ah oui, c'est une couche tard. Des fois, moi, je suis une couche tard. Hein. Je suis toujours toute couchée tard, même quand je bossais. Mais alors, des fois, elle me bat. Hein. Des fois, je me lève, il est 2 heures et je vois, elle est encore là. Alors que moi, déjà, bien souvent, bon, moi, je peux traîner très tard. Hein. Mais elle est là très, très
mais
tard.
Mais il y a beaucoup
elle
de gens qui aiment la nuit. Moi, j'en fais partie.
J'adore la nuit.
Seule, la nuit, là, c'est...
On est tellement bien.
Ah, ouais, carrément. Carrément. À qui le dites-vous ? Vous savez, c'est pour ça aussi que je fais cette libre antenne. C'est génial parce qu'on est la nuit, on échange.
Ah, mais c'est super ce que vous faites, Olivier.
Ah,
c'est
bah,
super,
merci beaucoup.
J'adore.
Merci beaucoup.
J'adore vous écouter. C'est un vrai plaisir. Pour moi, c'est l'oxygène, en fait. Voilà, vous êtes mon oxygène, en fait.
Eh
bien,
écoutez,
voilà.
Tant mieux. J'aime bien cette image d'oxygène.
Ben merci vraiment beaucoup
bon,
de m'avoir écouté si longtemps.
Ben, je vous en prie.
Voilà.
Et puis merci de nous avoir appelés surtout. Et puis n'hésitez pas à m'appeler de temps en temps.
Avec plaisir. Hein.
Hein,
et plein de bonnes choses pour vous. Hein.
Ben,
plein de bonnes choses.
Pour vous aussi, Lisa. Merci. Je vous embrasse. Au revoir.
Moi aussi. Au revoir, Olivier. Au revoir.